Ouais, c'était pour te raconter une petite anecdote assez rigolote. Mes parents ont vécu dans une vieille baraque à Sartrouville. C'était pas les bidonvilles, mais c'était tout comme, quoi. Avec beaucoup d'humidité, de froid, les chiottes dans le jardin, enfin les chiottes, la cabane avec le trou. Et puis une petite anecdote rigolote. Mes parents, à l'époque, pour économiser le camion à merde, là, hein, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, ces fameux camions avec les gros tuyaux, quand ils passent quelque part, ça pue la merde parce qu'ils viennent vider ce qu'on appelle les fosses septiques. Bah écoute, mes parents à l'époque, pour économiser cette dépense-là, ils attendaient la nuit, qu'il y ait un gros orage, et bah, ils se levaient avec ma mère, mon père et ma mère se levaient donc, et ils vidaient toute la merde dans le avec des seaux, ils prenaient la merde dans le trou, là, dans le fond du jardin, ils balançaient ça dans le caniveau, et puis bah voilà quoi. Ils faisaient l'économie du camion à merde, quoi. Pourtant, mes parents étaient des gens très, très propres, avec beaucoup d'hygiène, mais bon, bah, le daron, il travaillait sur les chantiers avec Ahmed, Mustapha et puis tous les autres, quoi. Donc, bah, voilà, quoi, ils faisaient l'économie du camion de merde en balançant tout ça dans le caniveau, quoi. À plus.
Là, vous êtes en train de parler des bidonvilles de Nanterre et autres. Je voulais simplement vous dire que dans les années 60 et 60, 59, 60, 61, j'étais institutrice. Mes premiers postes, j'ai débuté à Bobigny, où il y avait également un grand bidonville. J'avais des enfants du bidonville. C'était pas des Algériens, c'était des petits Français, hein, mais qui étaient contents de vivre dans les cabanes en tôle ondulée, hein. Et j'avais un enfant, j'aurais bien aimé le retrouver, qui s'appelait François Carcy, dit Doudou, hein. Il arrivait le matin, sa nourriture, il avait 10 ans, au CP, c'est pas grave, je lui ai appris à lire quand même, presque. Hein. Il arrivait le matin, cet enfant était nourri au vin rouge, quoi, voilà. Il était super sympa, et j'allais régulièrement le voir dans son bidonville. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais apparemment, il était pas mal redit être, hein. C'était très triste, mais voilà. C'était un simple témoignage. Au revoir.
Beau travail de mémoire sur le bidonville de Nanterre. Beaucoup d'émotions, mais toujours discrètes, pudiques, avec des images à la fois douloureuses et belles, comme celle fabuleuse de l'autocar de la mariée. On voudrait pouvoir dire que c'était le passé, mais aujourd'hui, c'est dans les squats qu'on retrouve tous les laissés pour compte dont on voudrait tellement se débarrasser. À Limoges, beaucoup de ressortissants des ex-pays de l'Est, ballottés d'un squat à l'autre, d'expulsion en expulsion. Les centres d'hébergement sont saturés et ceux qui ont la chance d'être admis sont indésirables entre 8h et 18h30. Alors, faute de mesures adaptées, un squat qui ferme, c'est forcément un squat qui ouvre. En attendant que la mairie, propriétaire de la plupart des squats expulsés, apporte de vraies réponses. Bientôt, ce sera l'hiver. Et je pense à cette phrase de René Laloux. Le propriétaire a une maison, le locataire en a 1000, et l'homme sans domicile a toutes les rues de la ville. Mais il en meurt.
Oui, bonsoir Monsieur Mermet, ici Jean-François. J'ai écouté votre émission sur le bidonville de Nanterre, que j'ai bien connu puisque j'ai vécu jusqu'en 68 allée d'Estienne d'Orve et mes fenêtres données sur ce fameux bidonville qui a disparu avec l'arrivée de Chaban-Delmas au début des années 70. Il faut préciser qu'à la place de ce bidonville, ben maintenant se dresse la préfecture des Hauts-de-Seine. Bon, à l'époque, en tant que petit Français, on n'allait pas trop dans le bidonville. On y allait en quelques occasions du genre incendie. Vous êtes obligé de dire qu'il y avait souvent des incendies dans ce fameux bidonville. Et puis la nuit, il y avait aussi quelques descentes de police dues à des règlements de compte entre le FLN et les gens qui n'étaient pas très d'accord pour payer leur dîme au FLN. Mais ça, vous avez oublié de le dire aussi.
Allô, c'est Gérald de Blancourt, le photographe dont vous avez parlé hier dans votre émission. Je suis complètement ému et bouleversé parce que des amis m'ont dit que vous en aviez parlé, vous aviez parlé d'une de mes photos. J'ai pris votre émission sur Internet, je l'ai écoutée, j'étais vraiment très très ému. Alors cette photo, figurez-vous qu'elle vient d'être publiée récemment dans un livre qui s'appelle « Le Paris arabe », l'édition de la Découverte, un magnifique livre où il fait de nombreuses autres photos d'immigration. Demain, je présente une exposition à la gare Antoinette Jean, au 65 rue Saint-André-des-Arts, et j'ai une exposition de photographie où j'ai des photos aussi d'émigrés, pas celle-là, mais beaucoup d'autres. Et donc, je suis toujours là, toujours occupé avec mes images, de nombreuses images, surtout de l'immigration que j'ai suivie un peu partout, ici et là, à travers les Pyrénées, quand il s'agissait des Portugais, dans les bidonvilles, pour les Nord-Africains, etc., etc. Merci beaucoup. Et si ça peut rendre un petit service et rappeler toutes ces misères dont j'étais le témoin, eh bien, bravo. Bravo pour votre émission. Et vraiment, un grand, grand salut. À bientôt, Gérald Bloncourt. Merci.
En 2003, les bidonvilles existent toujours, Daniel. Je m'appelle Myriam, j'habite à Saint-Denis, dans le 93, et j'y travaille. Il y a des habitants qui vivent sans eau depuis plusieurs années. Des Roms de Roumanie aussi, qui vivent dans des cabanes, sans eau, sans électricité, sans chauffage, bien sûr, et parmi les rats. Bon, on peut dire que ça évolue, puisque Sarkozy a réuni les préfets d'Île-de-France pour expulser les Roms. Alors qu'en Roumanie, ils sont battus, ils n'ont pas accès aux soins, l'enfant meurt dans les bras de ses parents. Ils n'ont pas le droit non plus au travail, c'est précisé sur les offres d'emploi. La politique du logement, elle aussi, elle évolue. De nouveaux appartements, tout beau, tout neuf, ça pousse comme des champignons. Mais à quel prix? On expulse à tout va des familles avec des enfants. Dehors. La solution qu'on leur propose, le 115. De toute façon, ils intéressent qui? Ils sont étrangers, ils ne votent pas, ils ne sont pas solvables. Je croyais que le logement était un droit. En fait, je suis éducatrice en prévention à Saint-Denis. Je voulais dire aussi qu'il y aura une grande fête le 15 octobre, à partir de 19h, sur le terrain des Roms, sur le quartier La Plaine à Saint-Denis. Il suffit de suivre la pancarte « Zone artisanale Landifrette ». Vous êtes tous les bienvenus. À bientôt.
Bon ben voilà, on sait ce qu'on fait le 15 octobre. Ce qui est bien avec les Roms, c'est qu'il y a souvent des musiciens et qui sont souvent excellents ces musiciens. Donc voilà, une invitation et des réactions suite aux deux reportages de Dylan Tebbi sur la mémoire du bidonville de Nanterre. Vous avez été très nombreux à réagir, à apporter des précisions et évidemment et des observations. C'est encore chaud hein, dans certaines mémoires. Il y a encore, c'est pas une page tournée au ciel. Elle tourne en grinçant celle-là. Demain, on part pour le Proche-Orient, Israël au pied du mur, on ira aussi dans les territoires palestiniens. À partir de demain, ça va être chaud sur dans la base où j'y suis. Aujourd'hui, on va réviser nos classiques de la base où j'y suis, on va retourner au musée d'Orsay. Devant une peinture célèbre, une des plus célèbres de notre histoire de la peinture, qui est le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Et que dit-on devant une peinture? Eh ben, généralement rien, hein. La peinture est un art muet, alors on passe devant, on contemple, on regarde, on s'attarde, on fait une petite réflexion, mais enfin, et puis on continue. Là, pas du tout. On s'est arrêté avec Elena Namias et puis on a dit, qu'est-ce que vous voyez? Dites-nous ce que vous voyez, vous allez voir ce que ça a donné. C'est savoureux, c'est étonnant, c'est érudit, c'est saugrenu, c'est divers. Et pour tout dire, c'est superbe. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, et beaucoup, beaucoup de réactions au sujet de la pub sur Inter. Vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de pubs sur Inter, et vous le dites, je suppose, un peu partout, mais en tous les cas, sur le répondeur de la base, si j'y suis. Et hier, il y a un auditeur qui a dit, mais pas du tout, la pub c'est très bien, chacun peut faire de la pub, et ceux qui sont contre la pub sont des fascistes. C'est exactement ce qu'il a dit. Vous allez réentendre ce message, et vous allez entendre les réactions à la suite de ce message.
Bien, ben je viens d'entendre la sortie du monsieur là qui est hors de lui parce qu'il est contre la pub dans le service public et il emmerde la pub, ceux qui la font, ceux qui l'écoutent d'après ce que j'ai entendu. On devrait interdire la pub, on devrait interdire ceci, on devrait interdire cela et puis grossier et tout. Et c'est quoi un fasciste? C'est quelqu'un qui veut interdire, qui veut pas que les choses qui le dérangent continuent d'exister, etc. Donc, je voulais dire à ce monsieur que on est dans un pays de liberté. Si la pub vous dérange, ben il y a un petit bouton en bas à droite là. Ben vous faites power off, hein. Et puis voilà. Et puis n'interdisez pas aux gens de faire des choses. C'est du fascisme. Vous êtes un fasciste. Voilà. Allez, au revoir.
Oui, Lucie de Marseille, je viens d'entendre un monsieur qui a des très bonnes idées pour la publicité. Donc, on peut éteindre la télévision pour ne plus entendre la publicité. Je suis contente de l'apprendre parce que moi, ça marche pas chez moi. Ben ouais, j'éteins la télé, mais je sors dans la rue puis j'en vois encore. J'ouvre mon journal, j'en vois encore. Je regarde des personnes, mais c'est ça quand même que j'arrive pas à comprendre. Je regarde des personnes dans la rue, et puis sur leurs habits, il y a des panneaux publicitaires, il y a écrit « Achetez Nike ». Mais moi, je comprends pas ça. J'aimerais qu'on m'explique, vraiment, je ne comprends pas. Donc tous les jours, je me demande ça, et je sais pas comment faire. Voilà, ciao.
Je voulais réagir au message du mec là qui traitait de fasciste, celui qui voulait interdire la pub. Alors bon, bah déjà, je trouve que c'est allé un peu fort. Mais bon, je voulais dire que déjà, interdire ne rimait pas forcément avec fascisme, puisque pour moi, les interdits en tant qu'enseignant, ça sert aussi à permettre de vivre en groupe, à apprendre aux élèves à vivre en groupe, et d'ailleurs les élèves, et d'ailleurs tout le monde. Mais justement, je voulais reparler à mes élèves par rapport à la pub, parce que moi je trouve qu'ils subissent la dictature des marques, il n'y a pas d'autre mot. Et parfois ils peuvent être méprisants par rapport à d'autres petits copains qui n'ont pas les moyens de se payer les Nike ou je ne sais quoi. Et justement, dictature, pour qu'une dictature elle puisse exister, elle a besoin d'une propagande, d'un bourrage de crâne. Et qu'est-ce qui lui fait ça, si ce n'est la pub? Donc moi je trouve qu'en fait c'est pas ceux qui veulent interdire la pub qu'on peut traiter de fasciste, c'est la pub qui est elle-même qui représente le fascisme, et parce qu'elle nous bourre le crâne, et voilà quoi. Moi c'est, j'ai rien d'autre à dire, et je vois ça, les dégâts que ça fait sur les gamins qui ont 10 ans actuellement, je sais pas ce que ça donnera plus tard quoi. J'espère qu'ils auront du discernement. Mais tout le monde n'en a pas, contrairement à ce que peut penser le monsieur qui dit qu'on peut appuyer sur le bouton en bas à droite là. Voilà.
C'est Hélène de Bordeaux. Donc je voudrais répondre à la personne qui a traité l'autre de fasciste parce qu'il était contre la pub. Moi aussi je suis contre la pub, et je me sens pas fasciste pour autant. Et puis je trouve que plutôt que justement c'est la pub qui est fasciste, parce que on subit cette propagande à longueur de journée et c'est insupportable. Donc voilà, et puis je voudrais dire aussi que faudrait arrêter d'employer ce mot fasciste pour tout et n'importe quoi, parce que c'est un mot trop grave pour le banaliser quoi, voilà. Bonsoir, merci.
Ben, je viens d'entendre un auditeur qui trouvait que vouloir interdire la pub sur France Inter, c'est une attitude fasciste. Mais interdire, au contraire, c'est le principe de la démocratie. Le fascisme, lui, il n'interdit rien, il laisse faire. Et quand on laisse faire, qu'est-ce qui s'impose? C'est la voix du plus fort, de l'idéologie dominante. Et l'idéologie dominante, c'est l'ultralibéralisme. Ne pas interdire, laisser faire, libéralisme, ça sonne bien, non? Consommer ou crever, vous n'avez pas le choix. La démocratie, au contraire, c'est un équilibre entre pouvoirs, un combat pour refuser la domination de l'un sur les autres. Et dans notre société, la dernière chose qui résiste encore au modèle dominant, c'est le service public. Moi, le jour où la publicité rentrera dans mon service public, l'éducation nationale, alors je prendrai les armes et je leur dirai, vous ne passerez pas.
La publicité, c'est passionnant à observer, car elle est exactement comme toutes les religions. Elle est porteuse des illusions, des envies, des peurs et des utopies d'un système social. Comme toutes les autres religions, elle est le véhicule idéal de l'idéologie dominante par toute l'imagerie qu'elle transporte et qu'elle impose à chaque individu qui lui est assujetti.
Oui, bonjour, c'est Eric de Bordeaux. Ben, avant le 21 avril, je tolérais la pub et les infos chloroformisées comme un bruit de fond sans importance. Mais depuis ce jour assez terrible, ça m'est devenu intolérable pour une bonne et simple raison, ça a des conséquences. Je fais référence à Pierre Bourdieu, même étant profane, mais la pub abaisse notre seuil critique, diminue notre capacité de résistance et nous fait accepter l'inacceptable, tolérer l'intolérable et nous fait oublier ce qui devrait rester à tout jamais dans nos mémoires. Et une dernière chose, les petites phrases publicitaires de Raffarin passeraient-elles aussi bien, aussi facilement dans nos consciences si les milliards de la pub ne nous y avaient pas préparé à les entendre? Et oui, ça a des conséquences. Beaucoup de conséquences. Donc la publicité, arrêtons un peu là. Hein.
Oui, bonjour, c'est Thierry de Chambéry. Je pense qu'il faut se pencher un petit peu sur le fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend actuellement? Quel type de pub, pour quel type de produit on entend des pubs en ce moment pour France Inter? C'est quand même pour beaucoup, pour des assurances, pour des complémentaires maladies, pour... on est en train de nous bourrer le crâne, je veux dire, le libéralisme, il est là. On est en train de nous bourrer le crâne sur des trucs. Si on nous vendait du chocolat, moi j'aime bien le chocolat, mais les assurances, les complémentaires santé, les machins, et oui, les retraites, la sécurité sociale, la solidarité dans ce pays est en train de crever, est en train de crever. Bonsoir.
En un mot, vous êtes pas moderne du tout, vous êtes archaïque, vous êtes des publiphobes, voilà ce que vous êtes, auditeurs de là-bas si j'y suis et de France Inter. On vient d'en avoir la preuve sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Mais il y a d'autres messages. On y va au musée d'Orsay, on va contempler la Dame Nue. Vous vous souvenez la Dame Nue? Vous la voyez? Le déjeuner sur l'herbe. Et oui, c'est elle qu'on va regarder pendant, et pas seulement, parce qu'il y a du monde autour, un petit peu de monde. Autour, donc voilà où nous dirigeons nos pas. Mais j'ai sous les yeux... Quatre vers de Victor Hugo qui dit ceci. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front, ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, ou quelque saint labeur, ou quelque grand amour.
Salut Mermet, pour détendre l'atmosphère des auditeurs de France Inter, voici donc un peu de pub. Demain, mercredi 8 octobre, sortira Attention danger travail, film de Pierre Carle. Je conseille au MEDEF et à tous ceux qui pensent qu'une vie sans travail est irréelle d'aller voir ce long métrage. Désolé auditeurs de France Inter pour cette pub, cependant ce n'était pas une pub, mais plutôt de la dératisation. Ciao, à bientôt et longue vie à là-bas si j'y suis.
Donc, je voulais faire la lecture d'un petit texte qui à mon avis devrait passer en boucle toutes les heures sur France Inter à la place peut-être des pubs débiles. Alors voilà le texte. Dans la glorification du travail, dans les infatigables discours sur la bénédiction du travail, je vois la même arrière-pensée que dans les louanges adressées aux actes impersonnels et utiles à tous, à savoir la peur de tout ce qui est individuel. Au fond, on sent aujourd'hui, à la vue du travail, et on vise toujours sous ce nom le dur labeur du matin au soir, qu'un tel travail constitue la meilleure des polices, qu'il tient chacun en bride et s'entend à entraver puissamment le développement de la raison, des désirs, du goût de l'indépendance. Car il consomme une extraordinaire quantité de force nerveuse et la soustrait à la réflexion, à la méditation, à la rêverie, aux soucis, à l'amour et à la haine. Il présente constamment à la vue un but mesquin et assure des satisfactions faciles et régulières. Ainsi, une société où l'on travaille dur en permanence aura davantage de sécurité. Et l'on adore aujourd'hui la sécurité comme la divinité suprême. C'est un texte de Nietzsche, extrait d'Aurore. C'était Anne de Marseille.
C'est Marina du collectif AC Agir contre le chômage du Rhône. Ça serait bien si vous pouviez diffuser un peu l'info suivante. Vous savez que le MEDEF a décidé de modifier les règles de l'indemnisation du chômage et en diminuant considérablement la durée du droit. Donc AC organise une grande journée contre l'amputation de ses droits, une journée qu'on a appelée les décapités gardent la tête haute. Donc il y aura plusieurs actions ponctuelles dans divers endroits de Lyon et un grand rassemblement avec un débat. Régression sociale jusqu'où et quelle réponse imaginer? Ça sera donc demain, mercredi 8 à 19h au Subsistance, un centre culturel, 8 quai Saint-Vincent dans le premier.
Monsieur Raffarin, après avoir glorifié avec des accents de prédicateur le travail pour le travail qui sauve, le travail rédempteur, il déclare maintenant qu'il ne faut pas sombrer dans les ténèbres du pessimisme. Pauvre monsieur Raffarin, le voilà qui sombre en plein délire mystique. Mais c'est normal, son système s'effondre. Et il ne lui reste plus qu'à invoquer les dieux du capitalisme.
La loi qui s'impose à tous n'est pas acceptable. Voilà ce qu'a dit le baron Ernest Antoine Célière aujourd'hui dans mon poste et je suis énervé. Et putain, mais quand est-ce qu'on va les pendre, les patrons, bordel ? Voilà, c'était Vincent de Marseille, très énervé. À bientôt.
Après Beach, Pithiviers, Paimpol, Luçon, Loche, Joigny, Tonnerre, Roche-Migène, Avallon, etc., la liste est longue. La prochaine maternité menacée de fermeture est celle de Nogent-le-Retrou, sous préfecture d'Eure-et-Loire et capitale du Perche. Les femmes risquent de devoir accoucher chez elles ou en chemin, puisque 60 km nous séparent de la plus proche maternité. Rejoignez-nous pour manifester votre mécontentement mardi 7 octobre à 17h30, place Saint-Paul, à Nogent-le-Retrou. Merci.
Bon, je profite de ton répondeur pour au moins faire de la pub. Tant pis hein, pour les énerver la publicité sur France Inter. Alors, je voudrais dire que la Confédération Paysanne organise le 9 et le 10 octobre, c'est-à-dire jeudi et vendredi prochain, un colloque sur le foncier en montagne. Alors, si vous êtes un paysan de nos belles montagnes, un acteur volontaire ou un futur paysan, prenez contact avec la Confédération Paysanne de la Lozère et venez participer à ce colloque. C'est important. Merci. Au revoir.
Alors, on voit un monsieur habillé en costume, enfin, il y en a deux. Il y a une dame, enfin, ils font une dame nue. Ils font un pique-nique. Il y a une autre dame qui cueille de l'herbe. Ils sont dans
de l'herbe.
Enfin, ils sont dans une forêt. La dame nue, elle s'est déshabillée, puis elle avait un panier de fruits.
Avec des cerises.
Mmh. Il y a un monsieur, on dirait qu'il est russe parce qu'il a un chapeau comme ça.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Léna Namias. Là-bas, suis.
Flight number 2, arriving from New York.
On sait pas, mais on devine. À notre avis.
La très chère et tenue, lui connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quatre vers de Charles Baudelaire et vous. Vous, c'est-à-dire 500 000 images différentes, uniques et nues, qui viennent de naître. 500 000, vous êtes à peu près, et chacun vient de s'inventer sa propre très chère. Chacun a vu la posture, la parure, le soyeux de la peau, le bombé de la lèvre, les tissus, la tiraille, l'opulente, les hasards, la suite de l'histoire, les parfums, la belle offerte esclave de cœur. Chacun son cinéma intime, chacun sa mythologie personnelle, chacun sa lumière, chacun interprète, chacun s'approprie cette matière à réflexion. Pour peu que le mystère soit suffisant, que le mystère soit ouvert, qu'il y ait du non-dit, de l'inachevé, alors du lieu commun naît le rêve unique. Tout ça, pas seulement pour rappeler bien sûr que la radiophonie est l'art le plus visuel qui soit, mais aussi à l'heure où nous sommes sous le choc des blocs soumis au binaire, où nous en sommes réduits à nous soumettre à l'indigence des chiffres, réduits, réductrice démocratie. Faut-il qu'autant d'intelligence, de cœur, de mémoire, de pensée, de science, de beauté aboutissent à deux chiffres ? Noir, blanc, bloc, camp, perdant, gagnant. Quantité sans qualité pour un monarque président. Sans doute, le moins mauvais système, mais encore combien de temps impuissant à représenter, à nous rendre la diversité, la multiplicité, le chatoiement infini des sensibilités mouvantes, contradictoires, hésitantes, irrésolues, nature humaine. Comme si le citoyen devait se ranger, se rogner, se classer, s'aligner. Alors aujourd'hui, éloge de la diversité.
Éloge de l'indiscipliné. Aujourd'hui, l'idée est simple. L'idée, c'est que le regard est plus important que la chose regardée, comme le disait Marcel Duchamp. On va déjeuner sur l'herbe, au quai d'Orsay. Ça ressemble un peu à Corset, mais non. C'est dehors, c'est dans la nature, c'est dans les rêveries, dans vos rêveries, parce que l'écoute aussi est plus importante que la chose écoutée.
Elle est bonne?
Ah, ah oui, oui. C'est froid.
Qu'on est bien avec les pieds dans l'eau.
On recule un petit peu là, comme.
Oui. Pour bien regarder un tableau, il faut être prêt si on veut regarder la technique, mais pour bien regarder le tableau, pour le plaisir de le regarder pour lui-même, il vaut mieux être loin. Et encore plus quand il s'agit d'une peinture impressionniste pour que les yeux fassent le mélange des couleurs, mais ce n'est pas le cas ici.
Moi, je suis venu voir ce tableau parce qu'il est tellement connu que c'est plus pour sa célébrité que pour autre chose, si vous voulez. Alors, hein.
Je vois des fruits, des gens qui pique-niquent, de l'eau, des messieurs et des dames. Puis c'est tout. Hein.
Rien n'entend autant d'imbécilité qu'un tableau de musée. Je me demande si c'est pas de Flaubert, cette phrase-là. On va lui donner tort parce que ce serait trop facile d'aller traquer l'idiot du musée à Orsay ou ailleurs. Là, c'est à Orsay qu'on va, et on va se poster avec Elena Namias devant le célébrissime déjeuner sur l'herbe de Manet. Alors, il y a deux cas, ou bien vous connaissez la peinture, ou bien vous la connaissez pas. Si vous la connaissez, vous allez la voir différemment, et puis si vous la connaissez pas, vous allez les découvrir par fragments à travers les yeux des visiteurs de ce musée. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une peinture? Eh ben, on peut se voir. Il y a un moment où, entre les intentions du peintre et le regard que nous portons à la peinture, il y a un tel malentendu, il y a une telle distorsion que finalement, nous n'avons plus qu'à nous approprier l'œuvre, l'objet qui est proposé, cette matière à réflexion, à rêverie, à méditation, à introspection que devient la peinture. Et c'est ce fécond malentendu, ce phénomène extraordinaire auquel nous allons assister. Mystère, j'emploie des mots un peu comme ça religieux, tant il est vrai que chez nous, dans nos cultures, au fur et à mesure la fréquentation des églises diminuait, s'accroissait la fréquentation des musées. Hein, les lieux de pèlerinage aujourd'hui, c'est Orsay, c'est le Grand Palais, c'est les grandes expos, c'est des vrais lieux de pèlerinage, et il y a un culte de la culture qui a remplacé, c'est un peu simple comme schéma, mais ça fonctionne à peu près, le religieux. Mais ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il y a du religieux dans la peinture, tout comme il y avait de la de la peinture dans le religieux. Il y a ce regard muet qui n'ose pas intimider devant les œuvres qui sont alignées le long des murailles, des musées, murailles qui enferment comme ça des beautés intimidantes, des sortes de cimetières de la vie. Et on va voir comment, simplement en donnant la parole à ceux qui passent, on va peut-être retrouver les gestes de ce merveilleux Manet qui voulait aller vite. C'était un homme pressé. Manet était un homme pressé qui voulait peindre du coup, sans préméditation, visible en tout cas, et qui évidemment précédait en ça tous les peintres du geste, de la trace, du provisoire, de l'inachevé, qui allait lui succéder jusqu'à Pablo Picasso. Même si en fait, évidemment, Manet était un grand admirateur, contemplateur du Titien. On va le voir dans ce nu à travers la l'éclatante sensualité de la femme qui figure dans ce tableau, et aussi grand admirateur de Velázquez pour cette rapidité souveraine du geste, un peu comme comme on rêvait d'une autre façon des grands artistes du jazz. Je délire, je dérive, je me laisse complètement aller depuis quelques instants. C'est ça l'idée du jour, c'est cette liberté à l'intérieur et surtout à l'extérieur du cadre où la vie est enfermée.
Bonjour monsieur, vous êtes l'agent de sécurité ?
Moi je ne suis pas sécurité, moi. Je ne suis pas un chef, moi je suis un agent de technique.
Vous surveillez les salles ?
Oui, ça.
Et si vous pouvez me dire ce que vous voyez ?
Oui. Édouard Manet, le déjeuner sur l'heure. Là, c'était un tableau qui était refusé au salon des refusés, ce tableau était refusé. Oui, à Manet, c'est tout ce que c'est.
Non mais sur la toile, vous voyez quoi ?
Ah, c'est une dame qui est nue, une femme nue qui... avec un monsieur Manet, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas exactement, il faut plus partir à un conférencier parce que moi je ne suis pas qualifié pour... Mais j'ai un autre travail à la CSS pour la sécurité, moi. Je ne suis pas là pour parler, madame, si je contrôle les flashs, les appareils photos, les appareils photographiques. Moi, je ne peux pas vous dire plus, hein. Je contrôle les flashs, madame, je ne peux pas.
Les flashs tuent la peinture, mais est-ce que les regards... La font vivre. Ouais, bien sûr. Sans regard, il n'y a pas d'œuvre. Ce serait un dialogue de sourds. Ça, c'était le gardien, ce qui prouve au passage que c'est pas ceux qui sont les plus anciens dans le lieu qui ont la plus fine compétence. Compétence, docte compétence, bien évidemment. Un regard, cependant, un seul regard de ceux qu'on appelle les conservateurs, les bien-nommés conservateurs. Marie-Pierre Salé vous explique le déjeuner sur l'herbe.
Alors, le déjeuner sur l'herbe a été exposé pour la première fois en 1863 au Salon des Refusés. Ce qui a, à l'époque, beaucoup choqué la critique, beaucoup choqué le public du Second Empire, c'est à la fois, bien sûr, le sujet, c'est une partie carrée, ce sont des étudiants et une prostituée dans la campagne. Aujourd'hui encore, les historiens d'art s'interrogent sur la nature exacte des intentions de l'artiste.
Vous, personnellement, vous l'interprétez comment ?
Je le lis surtout comme une étude du peintre pour situer une figure et des personnages dans un paysage, pour se référer aussi à toute une tradition de la peinture, donc comme une réflexion du peintre sur le nu, sur le réalisme, sur le nu moderne et sur la vie moderne. Il y a des références évidentes à l'œuvre de Titien, du Concert champêtre, et puis également à une œuvre de Raphaël gravée par Marc-Antonio Raimondi qui s'appelle Le Jugement de Paris.
Elle est relativement proche d'un des étudiants,
oui.
Mais elle a les jambes passablement ouvertes. Et donc elle a le pied à côté d'un étudiant, du premier. Oui. Par contre, elle a un pied aussi qui touche l'autre étudiant, donc ils sont en triangle assez près l'un de l'autre.
Mm-hmm.
Et je me demande même si, comment dire, s'il n'a pas directement accès sur ses parties sexuelles à la femme.
Oui.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Je pense qu'il voyait ce qu'il voulait voir, de toute façon. De très nombreux critiques ont écrit sur le tableau dans leur revue du Salon des Refusés, donc de 1863, notamment Chénaud et Thoré, et qui se sont attachés au sujet, comme je vous le disais, qui ont aussi été très, très surpris et étonnés et choqués. Le terme de bizarre a même été employé par Chénaud pour qualifier le style de Manet. Bizarre, oui.
Bizarre. Heureusement, voilà, cette conservatrice et notre Elena qui a un regard bien libidineux, cette Elena. Mais c'est vrai, c'est très marrant de penser au nombre de prostituées qui ont posé pour les peintres, les demoiselles d'Avignon. C'était un bordel de Barcelone dans la carrière des Avignon, où Picasso s'est rendu et devant lesquels il passait tous les jours. Et puis il y a la fameuse statue de la liberté, la statue de la liberté, mes enfants. Eh ben oui, on sait qu'il s'agit d'une femme de mauvaise vie que Bartholdi avait trouvée dans un bordel autour de l'école militaire. Mais sans doute que c'est pas les seuls cas. Hein, j'ai pas une érudition formidable en matière d'histoire de l'art, mais c'est sûr qu'on doit partout sur la planète admirer des corps d'hommes et de femmes qui n'étaient que de villes prostituées, que je trouve une belle fable. On continue dans ce musée avec le regard de chacun.
À ce que je vois, eh bien, je vois dans une forêt, je vois une dame à l'horizon, deux couples, il y a deux couples en général, en principe. Ils ont amené leur déjeuner, c'est-à-dire une brioche, des cerises, je ne sais quoi encore, hein. Vous avez vu à côté, non? Et puis, à l'arrière, il doit y avoir un peu d'eau, et il y a une personne qui doit se préparer à prendre un bain. Elle n'a pas l'air d'enlever ses vêtements, elle est appuyée sur l'herbe, ou sur une pierre qui est là, où je pense qu'elle va prendre un bain. Voilà ce que je vois. Et vous, qu'est-ce que vous avez vu?
Bien, moi, j'ai vu trois hommes, deux hommes et une femme assis au milieu d'une clairière dans les bois, avec effectivement la dame qui met sa main dans l'eau, plus loin.
Parce que vous, ça s'appelle le déjeuner sur l'herbe, mais avant, ça s'appelait le bain, hein, ce tableau-là.
Et il y a une femme qui est nue, à côté des deux hommes habillés.
Oui, bien sûr. Elle a dû le prendre, son bain, elle sèche.
Et je me demandais qui ils étaient. Est-ce que ce sont des amants?
Pas forcément. Parce que au fond, ils ne se regardent pas comme des amants. Il y en a deux, d'ailleurs, qui regardent le public. Là, hein, et l'autre discute, et il ne fait pas du tout attention à la femme nue. Et il ne fait pas non plus attention à celle qui va se déshabiller.
Et à votre avis, c'est qui ces gens?
Ah, ben, c'est des promeneurs, peut-être dans une propriété, parce qu'il y a un bateau, hein, vous voyez, là, ils sont peut-être venus en bateau.
Et qu'est-ce qui va se passer après? Ça va se terminer comment, cette histoire?
Ça va bien se terminer. Ils vont se rhabiller, ils vont repartir. C'est pas une partie carrée. Allez.
Tu as des habits, tu as des cerises, je vois du pain là, tu as un bateau qui brûle là, puis je vois le ciel là, et puis je vois là-bas la montagne, puis je vois une dame assise sur les fesses. Puis elle est assise sur un autre habit, sur son pantalon. Et puis elle est à côté de son copain. Puis en face il y a son mari. Puis ils se regardent.
Qui se regarde?
Les deux monsieur. Je vois qu'un monsieur regarde le monsieur, puis un autre regarde par là-bas. Puis je vois plus rien. Je vois plus rien.
Mots d'un enfant devant le déjeuner sur l'herbe de Manet au musée d'Orsay à Paris. Déjeuner sur l'herbe qui suscite toujours des commentaires, comme beaucoup de peintures, toujours, heureusement. Et tant qu'on parle, les peintures existent. C'est ça la légende de l'image. Et sur cette image, beaucoup de légendes. Un certain Claretti déclarait, lorsque cette peinture a été présentée, qu'est-ce que cet odalisque au ventre jaune, ignoble modèle ramassé je ne sais où. Scandale à l'époque de cette peinture, les scandales en peinture à l'époque étaient fréquents, on adorait ça. Et Manet avait dit, il faut que je fasse un nu, je vais leur en faire un dans la transparence de l'atmosphère, avec des personnes comme celles que nous voyons là-bas. C'est-à-dire, pas oublier que Manet était pote avec Baudelaire, mais aussi avec Zola, et qu'il était très, pas du tout impressionniste, pré-impressionniste, et qu'il était très attiré par la réalité, les choses telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles sont, les femmes telles qu'on voudrait qu'elles soient, ou telles qu'elles sont. Il était exactement entre les deux, puisqu'il s'est inspiré de figures de Raphaël, et il est très imbu des postures des postures, c'est ça, on peut dire ça, ou des poses, enfin, de la peinture classique. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est moi qui suis en train de parler de cette peinture, alors que le but, il est de donner la parole à ceux qui se baladent au Quai d'Orsay et qui regardent, qui n'osent pas toujours parler, mais qui là, pour nous, pour vous, ont osé.
Venecia se está molto de la noche a la mañana. Los Andes están muy dolidos, los de esta región.
Manet donnera toujours une grande importance aux figures. Manet emploie toujours les gris et toute la gamme des gris, du blanc au noir. Et regardez les ombres des arbres. Elles sont de quelle couleur, ces ombres? Oui, elles sont de quelle couleur? Oui, elles sont noires, ou presque noires, parce qu'on a dit qu'on disait gris très foncé. Et en fait, Manet va être un peintre qui va faire partie de ce qu'on appelle la nouvelle peinture, mais il n'est pas, c'est un peu tôt encore, mais il ne sera pas, même après, impressionniste.
Je vois une femme qui se baigne, qui se trempe les pieds dans l'eau, à l'arrière-plan, un étang, et puis ça va doucement jusqu'à l'horizon, avec des tons extrêmement fondus, extrêmement doux. Au point de vue feuillage, le feuillage aussi est très doux. Il y a un éclairage, curieusement, qui semble venir de droite, plutôt, qui éclaire le côté droit, alors que la femme était très éclairée devant. Bon, alors on peut y avoir un jeu sur le feuillage là. Par contre, le côté gauche, vous voyez, la mare est beaucoup plus sombre. Et donc, il y a cette tache jaune qui attire le regard sur la droite, jaune-brun un peu, qui n'est pas très vive, mais qui attire le regard et qui fait un rappel avec, je pense, le feuillage de gauche.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle, à gauche? Il faut regarder dans la nature un petit peu. Bon, alors...
C'est un déjeuner sur l'herbe, ça. Mais ils n'ont même pas mangé. Vous voyez, par exemple, des fruits. Hein. D'abord, c'est tout, alors ça fait un peu juste. Et puis, surtout, ça n'a pas été entamé. Donc, c'est un faux déjeuner sur l'herbe. C'est pas... Sinon, il y aurait des pâtés, à l'époque, il y aurait une bouteille de vin, un pâté. Donc, c'est plus des nourritures symboliques que des nourritures réelles, je pense. Dans ce sens-là. Que je le verrai, hein. Mais bon, c'est la peinture, c'est personnel, hein.
Si vous regardez les fruits qui sont là, vous avez par exemple des cerises et des figues. À l'époque, il n'y avait pas de réfrigérateur, encore moins de congélateur. Et les cerises mûrissent en juin, juillet. Et les figues à la fin de l'été. Est-ce qu'on peut les avoir en même temps? Est-ce que le peintre a pu les voir en même temps? Il a pu les voir en même temps, le peintre? Non, aujourd'hui évidemment avec la congélation on peut tout faire. Bon, mais à l'époque non. Et ce qui montre bien que c'est aussi, il y a une part d'imagination très grande aussi pour des détails comme ça. Ça le confirme.
C'est certainement des rapins, hein. C'est l'impression qu'ils donnent un peu. Hein.
Des quoi?
Des peintres. Ils me paraissent pas très élégamment vêtus, mais ils sont donc c'est sombre. Ils sont vêtus de façon sombre, tous les deux, hein, par rapport à la femme qui est, quoique lui a un pantalon clair, mais enfin on le voit très très peu. Hein. On dirait même la blouse, un peu une blouse plutôt qu'une veste. Enfin, je ne sais pas si je vois bien, mais celui de droite paraît avoir la blouse de peintre. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est peut-être un rapin, enfin un peintre de l'époque, quoi, simplement.
Ceci, c'est la faluche que portaient les étudiants à l'époque. En plus, le peintre a fait poser son frère et son beau-frère, donc on pouvait les reconnaître.
Et puis cette femme nue, et c'est l'étonnement, et ça intrigue, on se dit, mais enfin, que peut-il se passer?
Ce n'est pas un nu, c'est quelqu'un de dévêtu. Alors autant la nudité dans la peinture et dans l'art était acceptée depuis toujours, mais il y avait une distance qui se créait parce que c'était l'histoire, parce que c'était idéalisé, parce que c'était héroïque, autant là, c'est quelqu'un de 1863, même si Manet dit « Oh, je ne vois pas pourquoi vous êtes choqué, parce que tout le monde va être choqué quand ce tableau va être présenté. » Manet dit « Je ne vois pas pourquoi, parce que je me suis inspiré d'une peinture d'un grand maître de la Renaissance italienne. » Et en plus, il s'est inspiré d'une peinture d'histoire. Or, je vous ai dit tout à l'heure que le peintre le plus important était un peintre d'histoire.
Savant. Savant et passionnant, il faut bien dire. Mais les deux regards sont aussi intéressants et passionnants. L'un que l'autre, on continue à méditer, à regarder, à scruter le déjeuner sur l'herbe.
Bien. Alors, est-ce que vous voulez poser d'autres questions ?
Moi, j'aurais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous voyez ?
Deux hommes bien habillés, assis par terre, une très jolie femme nue, et un tsunami qui se baigne derrière ou qui ramasse quelque chose par terre, je ne suis pas sûr. Et ils viennent de déjeuner avec tous les fruits, du pain, tout ça, qui reste par terre. Tout ça est très bien organisé dans la forêt, c'est ça que je vois. Et puis l'expression de cette femme nue, avec une toute petite sourire, avec ses yeux très brillants, ils sont en train de regarder quelque chose.
Le première peinture féministe.
Le déjeuner sur l'herbe, c'est la première peinture féministe.
Oui. Parce que la femme est indépendante, confiance.
La dame qui est nue semble indépendante et confiante.
Oui, oui. Les hommes, intellectuels, philosophie. Et la femme est so independent and above the discussion.
Les deux hommes sont en pleine discussion, mais la femme est là, indépendante et au-dessus de cette discussion.
Oui, 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 oui. Mystérieux. What happened? Quel passé avant? Pourquoi des hommes sont discussion, intellectual, and la femme? It's mysterious.
C'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé avant, ni quelle discussion intellectuelle il s'agit, alors que la femme est là, nue à côté.
Yes.
Avant ? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas si les deux hommes ont fait l'amour avec cette femme. On ne sait pas si ils sont comme ça parce que c'est la vie, enfin, c'est leur manière de se communiquer entre eux.
I don't think they made love. I think she just independently said, it's a beautiful day, I'm taking my clothes off, I'm going for a swim, I don't know.
Vous imaginez que la femme, ils n'ont pas vraiment fait l'amour ensemble avant, mais elle se serait mise nue d'elle-même en disant, c'est un très beau jour, je vais me mettre nue.
Oui, 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 c'est ça, c'est ça.
Intéressant, hein, comment les femmes voient la femme, comment la femme à l'instant, il y a quelques instants, contemplait vraiment cette autre femme, et comment celle-ci voit dans la figure le nu, alors le dévêtu, bon, si on veut, de déjeuner sur l'herbe, alors voit quelque chose de féministe, là, dans la mesure où cette femme a l'air tout à fait indépendante, above, des hommes qui sont en train de philosopher, peut-on se dire, passionner la conversation. On pourrait voir le contraire, une sorte de bestiaux à leur disposition, là, nu, dont on fera quelque chose tout à l'heure. Ces deux regards totalement différent, et c'est toute la, c'est peut-être là-dedans que réside essentiellement la beauté, toujours féconde du geste, de l'un des gestes de Manet.
Alors on voit un monsieur habillé en costume, enfin il y en a deux, il y a une dame, enfin ils font une dame nue, ils font un pique-nique. Il y a une autre dame qui cueille de l'herbe. Ils sont dans
de l'herbe.
Enfin, ils sont dans une forêt. La dame nue s'est déshabillée, puis elle avait un panier de fruits
avec des cerises.
Mmh. Il y a un monsieur, on dirait qu'il est russe parce qu'il a un chapeau comme les Russes. C'est tout.
Qui est-ce qui l'a déshabillée, la dame?
Je pense qu'elle s'est déshabillée toute seule, à mon avis. Bah oui, elle a quelque chose sur elle encore. On dirait qu'elle est en train d'enlever, mais ça se voit même. On a l'impression que vraiment elle s'est déshabillée toute seule. On n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déshabillée. Bah en fait, ses habits sont à côté. Si ça aurait été les messieurs, ça aurait été sûrement à côté des messieurs.
Comme les habits sont sous ses fesses, il peut pas le mettre sous elle.
On sait pas, mais on devine. À notre avis. Parce qu'elle a un moment sur sa jambe, on voit, elle a encore un bout de tissu. Et si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait déshabillée, il l'aurait complètement déshabillée. Tandis que là, c'est simplement le corps. Et puis, mais il reste un bout de tissu sur sa jambe. Donc, on a plus l'impression que c'est elle qui s'est déshabillée toute seule.
Puis peut-être qu'elle voulait se baigner, parce que comme il y a une rivière juste à côté.
Quoi qu'elle, on dirait qu'elle a pris un bain parce qu'elle a, on dirait qu'elle a un tissu, comme Stéphanie a dit, un tissu peut-être pour s'essuyer. Peut-être parce qu'il fait chaud, enfin je sais pas pourquoi elle se déshabille.
Bah, s'il faisait chaud, tout le monde se sera déshabillé.
Il y a un flacon à côté, peut-être qu'elle bronze. Elle s'est mis du produit et elle bronze.
Et c'est qui ces gens?
Sûrement des personnes riches parce que à voir les habits qu'ils ont, ils ont des habits noirs, des costumes, ils ont une cravate noire. Il y a un monsieur qui a un chapeau russe, on pourrait dire, il a une canne. Il a, par contre, l'autre, il a un espèce, pas une cravate, mais quelque chose comme une cravate qui est rose.
Enfin, ils sont habillés en costume du dimanche, comme autrefois. Dans le temps, pas tous les gens étaient riches, c'est pour ça. Donc là, il y en a qui peuvent tout s'offrir, d'autres non.
Il faut qu'on parte.
Au revoir.
Salut,
au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
Et la dame, elle y est toujours. Hein. Vous pouvez y aller au musée d'Orsay à Paris. Voilà ce que l'on peut dire et entendre devant ce chef-d'œuvre de Manet. Mais bien évidemment, ça ne cesse jamais. C'est un flot, un fleuve ininterrompu de regards, de paroles, de commentaires et de rêveries. C'était un reportage d'Elena Namias. C'était un grand classique de la basse vie aujourd'hui. Hein, c'était révision de classique. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent, Olivier Deligaud, assistante Joël Levert, le répondeur c'est Christophe Humbert, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, Coy Nguyen, assistant, Antoine Chao a réalisé cette émission modeste et géniale pour vous. Une chose importante qui va se passer dimanche prochain au Zénith à Paris. Cultivons notre terre. C'est les états généraux de la culture. Ce sera de 16h à 19h au Zénith. Et il y aura des ateliers le matin de 10h à 13h. Branchez-vous sur cette journée de réflexion qui fait suite évidemment au mouvement des intermittents avec Jacques Ralit et d'autres, et des chercheurs, des artistes. Il y aura Bernard Lubat qui jouera. Je vais vous en reparler dans les journées à venir. Je pense que dans les émissions à venir, je pense que ce sera quelque chose de particulièrement passionnant. Voilà, et ben oui, c'est le moment, pas tout à fait encore de la réclame, si, c'est le moment de la réclame.